À découvrir en ce moment à la galerie L'Atelier Sistar, l'exposition de Mireille Josepha François, La Terre de Louise, les archétypes féminins. Mireille Josepha François répond au micro de Chris Alessandri.
Christophe Pansard, président de Sistar, décidément ça bouge beaucoup chez vous.
Alors oui, là ça fait très longtemps que notre adhérente en fait, Mireille Josepha François, donc de son nom d'artiste, une passionnée depuis toujours, en fait je pense, de l'art, donc nous fait la joie de présenter son exposition avec beaucoup de sentiments, pour ma part, rejaillissent de cette exposition, qui me donne aussi de l'émotion donc, dans la parole, tout simplement. Et donc c'est avec joie donc, que nous recevons donc, cet artiste pour partager avec les visiteurs, que nous souhaitons nombreux, pour venir vraiment apprécier cet univers assez particulier et très intense.
De quelle façon se font les complicités? Parce que pour venir exposer, il faut systématiquement que ça passe bien. Parce qu'il y a une forme d'intimité aussi, quelque part, qui est instaurée.
Oui, en fait, c'est vrai que c'est une relation qui s'établit avec les artistes, avec, bien sûr, cette association Sistar. Il faut absolument qu'il y ait un lien, c'est assez profond, en fait. Voilà. On ne peut pas, en fait, ça se ressent... C'est le temps qui se pose, en fait, et de ce temps, créer cette passion et surtout cette envie de s'investir, voilà. Avec beaucoup de pudeur, en fait, aussi, il faut pouvoir se dévoiler. Et c'est là où j'apprécie énormément Mireille, parce qu'elle a pris ce courage aussi que beaucoup d'adhérents donc, prennent, mais avec le temps, ça se pose. Et c'est cet investissement, en fait, intense, a besoin de vraiment de se poser. Et donc là, il faut beaucoup de courage. Et donc, je salue le courage que Mireille a mis dans cette exposition et l'investissement énorme.
Christophe, est-ce que les artistes qui viennent présenter, vous êtes artiste vous-même, continuent à vous surprendre?
Oui, toujours en fait. Moi, je pense qu'à vie, je serai surpris par les artistes, par ces instants, ces éclats de lueur qui, on ne sait d'où, jaillissent et atterrissent sous les murs de cette excellente atelier, galerie de Sistar.
Mireille Josepha François, vous êtes là dans une ambiance, je crois, qui vous colle tout à fait, qui vous correspond tout à fait.
Oui, justement, vous posiez cette question au président de l'association. Si vous voulez, cette galerie, elle a un cachet, elle a quelque chose d'intime et on a envie d'être là pour présenter son travail. Et puis aussi, depuis un certain temps, enfin depuis toujours, je crois, il y a une manifestation collective de tous les gens de l'atelier, s'ils le veulent bien, pour participer à un sujet collectif. Et en fait, c'est très important parce que c'est là qu'on peut un peu, sur le même sujet, chacun voir un petit peu comment les autres artistes réagissent à la même problématique. En fait, ce n'est pas anodin parce que le travail que je vais vous présenter là, il est parti d'un sujet que nous avions collectivement qui s'est appelé, le thème, ça a été « Derrière le miroir ». Et si vous voulez, dans ce thème « Derrière le miroir », j'avais fait un travail qui était un travail de démembrement de l'envers de la toile et de bascule. Enfin bon, j'avais réagi à ce sujet-là. Et en fait, c'est à partir de là qu'est née la nécessité créative de comment repasser de l'autre côté du miroir.
La Terre de Louise, c'est une exposition, c'est le titre de votre exposition, le nom que vous y avez donné. C'est une partie de vous en même temps que vous avez voulu apporter. Ne serait-ce que déjà la définition, on englobe beaucoup de choses dans votre vie.
Je suis venue, retrouver ma veine d'artiste peintre parce qu'elle a été arrêtée pendant toute une carrière d'enseignement. Hein. J'ai eu envie de trouver mon atelier et en fait, il s'est trouvé que je suis venue sur cette terre où j'ai passé mon enfance chez ma grand-mère, comme beaucoup de gens le savent, enfin le connaissent, ce retour un peu à une terre. Et c'est pour ça que j'ai donné à cette exposition le nom, par reconnaissance, à cette Louise qui est là, qui est une grand-mère. Il s'est trouvé que j'ai rencontré en même temps un livre de Clarissa Piccola Est, celle qui a écrit « Femme qui court avec les loups ». Et en fait, justement, elle a écrit aussi un livre qui est « La danse des grands-mères ». Moi-même devenue grand-mère. Enfin, tout ça a commencé à se répondre. Et j'ai eu envie d'honorer ces figures de vieilles femmes sages qui deviennent sages et qui donnent tellement. Donc il y a un côté où ça peut être transmission des mémoires qu'on peut travailler en psychogénéalogie, mais il y a un côté aussi héritage, c'est-à-dire de quoi on hérite aussi sur cette terre, dans notre propre terre. Alors voilà, donc c'est parti comme ça. Et ensuite, comment donner forme à ça? C'était très, très important pour moi de ne pas rester dans une intimité subjective, mais d'ouvrir vraiment un langage plus accès, universel si possible. C'est là que ça a été compliqué pour moi, difficile, de vraiment d'affirmer quelque chose. Et alors là, c'est plus un secret, mais je suis passée par l'iconographie. L'iconographie qui est religieuse et qui est orthodoxe. Et alors j'avais ça, mais je voulais, c'était pas pour rester là, c'était pour ouvrir aussi ce langage. C'est un grand art, l'iconographie. Vous savez, le peintre Matisse, il disait que quand il a découvert les icônes russes, il disait, mais en fait, c'est dans les écoles d'art qu'on doit apprendre ce travail. Et c'est vrai que dans l'icône, il y a du dessin, il y a de la ligne, il y a de la couleur, il y a du mystère, il y a de la relation.
Il y a, je dirais, de la matière et de la lumière, tout ce qu'on retrouve chez vous également.
Et merci de le dire, parce que en fait, c'est ça. Ça, c'est exprimé d'une autre manière, de façon plus, comment je dirais, dans les tripes, si vous voulez, dans la subjectivité. Et c'est vraiment un travail d'une matière qui va essayer d'être malaxée, si vous voulez, en soi, pour essayer d'arriver à quelque chose de... Oui, c'est ça, quoi, une métamorphose, en tout cas, une élévation, quoi, une mise en lumière. Et en fait, moi, j'ai été très, très animée à ce que cette Louise... qui, je ne raconte pas son histoire, bien sûr, mais comme dirait Christian Bobin, qui a reçu des cendres de toute sa vie, quoi, des malheurs, puisse être renvoyée à la lumière. Et c'est comme ça que j'ai utilisé le langage de l'icône à mes propres fins de peinture, de figure, de portrait. Vous voyez, en gardant cette écriture un peu sobre, un peu pour rendre présent, plus pour la présence que pour la représentation. Plus rendre présent la figure, la personne. Donc voilà, là j'avoue que je dis beaucoup sur mon parcours, sur mon passage là, comment je relis les choses à la fois, vous savez, la nécessité intérieure dont parle Kandinsky, toutes ces choses qui animent un artiste qui veut exprimer... quelque chose.
Et vous l'exprimez, j'ai remarqué, il y a vraiment ce côté fascinant, chimère un tout petit peu, qu'on est là, sur des archétypes peut-être sur lesquels vous vous exprimez également, la religion elle est omniprésente également, le conte peut-être.
Oui, c'est-à-dire que vraiment je tiens à ce qu'il y ait, il y a plusieurs apports, c'est vraiment des choses que j'ai eu envie, il n'y a aucune fermeture, il n'y a aucun dogmatisme, c'est-à-dire que si, voilà, il peut y avoir un rapport au religieux. Bien sûr, surtout par la forme, par l'icône. Par exemple, quand il y a Myriam de Magdala qui figure aussi une femme. Parce que ma grand-mère, ce n'est pas que pour ma grand-mère. C'est aussi pour tous les archétypes des femmes. La mère, les enfants, la descendance. Une icône comme Marie-Madeleine, c'est un archétype, Marie-Madeleine. Vous voyez ? Donc en fait, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait des liens qui se tissent, qui se fassent entre toutes ces, bah, tous ces apports, en fait... ses apports, voilà.
Comment se passe la relation avec les personnes que là, vous avez ouvert depuis peu de temps ?
Eh bien, écoutez, je suis étonnée parce qu'il y a eu des personnes, souvent seules, qui sont rentrées, mais complètement. La dernière, c'est un monsieur qui est parisien. Il me dit son âge, même 81 ans. J'étais très marrant. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, très simples. Et qui était subjugué par le fait qu'il y a quelque chose qui est précieux, qui est sacré, qui est quelque chose, de cet ordre-là. Et il était complètement, on a discuté sur pas mal de tableaux, enfin voilà. Et puis il y a eu une dame, une autre dame aussi. Il y a eu plusieurs personnes, souvent seules. J'ai eu des rencontres plutôt de personne à personne. Voilà, j'ai ma famille qui est venue, une famille des Alpes. Alors ils ont absolument été ils étaient heureux, quoi. Je crois qu'ils étaient vraiment heureux, parce que c'est aussi une descendance de la grand-mère. Il y a comme une grande ouverture qui permet peut-être aussi des liens, d'autres liens, des liens qui se refont, quoi.
D'après vous, de quelle façon la femme traverse votre univers? Elle a traversé l'univers, cette femme que vous apportez, que vous présentez, que vous connaissez aussi très bien.
Ça va être difficile de dire hein, quand même, parce que la femme, quelle posture, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein. C'est un sujet aussi difficile. Je pense que dans le travail des mémoires d'une transgénéalogie, transgénérationnelle, je pense que chacun peut trouver effectivement des sources, des raisons de pour mieux se connaître en tant que femme, connaître ses blessures, les mémoires ou l'héritage. Hein, c'est les deux côtés, les deux aspects, qui se fait beaucoup depuis déjà longtemps sur les transmissions. Aïe, mes aïeux, c'est une personne qui a écrit ça il y a déjà fort longtemps. Hein. Comment se situer en tant comment parler de la femme? Là, aujourd'hui, c'était plus pour parler de la grand-mère, en fait, qui devient, dans le conte, une grande mère, c'est-à-dire une femme sage, et qui peut transmettre quelque chose aux générations. Voilà. Après, j'ai été une mère, j'ai été une Marie-Madeleine, j'ai été une adolescente, et tout ça, et tout ça. Je sais, je bloque là.
Moi, à mon avis, ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est la façon avec laquelle vous allez vous analyser vous-même en tant que personne qui transmettait vraiment quelque chose que vous avez en vous et qui savait le transmettre sans le modifier, en fait.
Oui, alors peut-être que là, on peut faire appel à l'oiseau. Pourquoi il y a des oiseaux ici? Pourquoi chaque personne a un oiseau? Peut-être pour que chaque archétype de femme dans sa posture de femme à une époque, enfin à un moment donné de sa vie, puisse avoir, une écoute, un espace pour laisser parler son âme, carrément, pour recevoir des informations dont on a toujours besoin. Une information qui viendra, on ne sait pas d'où, mais qui peut être comme si c'était, dans certaines cultures, l'ange gardien ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que chaque personne, chacune porte un oiseau, comme une grâce avec elle, quoi, comme quelque chose de gracieux et porteur d'un message.
Mireille Josepha François, nous sommes ici rue Mercerie, ici même dans la salle d'exposition de Sistar. Je vais vous demander quelque chose, c'est de m'amener vers l'un de vos tableaux que vous avez envie de présenter peut-être en fonction de ce que vous vivez, en fonction de qui vous êtes.
Alors, je vais vous présenter la reine, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus vers une qualité de présence. C'est une femme qui est couronnée, avec toute la symbolique que peut avoir la couronne, même dans les textes kabbalistes ou à autre monde, quoi. Ça, c'est aussi, ça arrive aussi, la couronne, ça a beaucoup de sens, selon, piocher un peu, peu importe. Et en fait, cette reine, elle est venue à la fin, parce que nous avons, la femme, elle a à devenir une reine, et à être reconnue comme une reine, voilà, et honorée comme une reine.
Il y a une pudeur, on sent une pudeur, et en même temps, il y a ce respect et ce côté libre.
Oui, oui, parce qu'elle est couronnée, mais elle est extrêmement tranquille. Elle est sereine, apaisée, elle est simple, elle est sobre. Voilà, elle est nue et... Enfin, elle est vraiment ordinaire aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment chacune de nous, voilà, qui peut porter cette figure.
Je crois qu'une petite visite au sein même, au cœur même de la galerie s'impose.
Oui, alors là, vous êtes devant les rois. En fait, il y a trois figures qui sont les références sont des icônes. Daniel, David et le roi Salomon. C'est un travail qui était venu avant. J'étais partie du roi David. Mais en fait, au lieu d'écrire, parce que c'est une forme qu'on retrouve dans certaines icônes avec un parchemin, mais là, j'ai été chercher des textes du poète Rumi, donc dans une autre culture, en fait, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de relier des univers, des sources différentes, au-delà, voilà, des dogmes, quels qu'ils soient. Et donc, Rumi, c'est le... Voilà. Et donc, que ce soit Daniel ou le roi David, ils ont des textes de Rumi. Et je trouve que ça leur va bien. Ça change l'image. Et puis, le roi Salomon, bien sûr, il a le cantique, le tellement beau poème d'amour. Et en fait, ces trois... ces trois parchemins-là, en fait, ils apportent une notion de féminin et d'amour à ces personnages assez effrayants. Et puis, beaucoup plus tardivement, en fait, pour accompagner tous les archétypes et revenir aussi un peu à la source paléolithique hein, des mères, de la fécondité, là, c'est aussi un aspect, un archétype de la femme. J'ai fait quelques petites Vénus, je les ai appelées les Vénus, qui sont un petit peu, peu présentes des temps, de tous les temps, archéologiques et autres. Voilà, oui.
On sent la féminité, bien sûr, la grâce, mais également, j'allais dire, le côté peut-être maternel. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens.
Ah oui, tout à fait. Là, c'est vraiment toutes les ingrédients physiques de la maternité, bien sûr, de la fécondité, oui. Mais pas que. Il peut y avoir aussi d'autres aspects. Voilà.
Après, ça devient très personnel. C'est vraiment une perception de votre exposition.
Voilà. Ensuite, la fin de l'expo, c'était plutôt, j'ai eu envie de terminer sur l'oiseau, celui-ci que j'ai découpé, que j'avais cette fameuse derrière le miroir, et que j'ai appelé Esperanza, parce que là, j'ai eu vraiment envie de laisser envoler tout ça, de laisser repartir avec cet oiseau-là, voilà, ouais. Repartir tout, voilà, que tout cela voyage.
Il soit porté quelque part.
Il se porte, oui, en ceux qui voudront bien cueillir petit brin. On m'a posé la question, on m'a dit, mais alors après tout ça, qu'est-ce que tu vas peindre ? Et je ne sais pas pourquoi, vraiment, je vous le dis, là, je fais un aveu, j'ai répondu le cœur des fleurs.
Il y a quelque chose de presque impalpable dans ce que vous venez de dire. Qu'il va falloir définir.
Voilà, mais ça, je le laisse pour plus tard.
Donc, rendez-vous jusqu'à quand, ici même, dans la galerie Sistar ?
Le 25 mai, voilà, c'est ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, et les autres jours de 16h à 19h. Alors, le titre, c'est « La Terre de Louise et les archétypes du féminin ». Pour tout contact, Mireille Suza, SUZAT, tout attaché, @wanadoo.fr.